Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, le Goncourt et le Renaudot, deux des plus prestigieux prix littéraires en France, auraient dû être annoncés. Sauf qu'une anomalie s'est glissée dans le calendrier des jurys qui ont décidé de reporter leur récompense en raison de la fermeture des librairies à nouveau confinées pour enrayer la contamination de la population par le coronavirus. Lui aussi une anomalie inédite dans la marche du monde. Et nous voici en train de revivre l'étrangeté des 3 mois d'arrêt total déjà vécu au printemps dernier. Une parenthèse de 3 mois, elle aussi hasard ou prédiction au cœur du roman de notre invité aujourd'hui, puisqu'il imagine que le même avion, après une tempête apocalyptique, se pose 2 fois à New York avec les mêmes passagers, mais à 3 mois d'écart. Insensé, fantastique, impossible, vertigineux, ce roman intitulé « L'anomalie » chez Gallimard est, pour refermer la boucle, en lice pour le Goncourt et le Renaudot. Bonjour Hervé Le Tellier.
Bonjour.
Comment est-ce que vous vivez cette période d'incertitude? Est-ce que vous êtes déçu de ne pas savoir si vous êtes l'heureux lauréat ou pas d'un prix, ou au contraire heureux comme devant la boîte du chat de Schrödinger, puisque tant que les prix ne sont pas proclamés, il reste toujours la chance d'être le gagnant.
Le Goncourt et le Renaudot sont à la fois morts et vivants. Voilà, c'est ça. Ben, on est comme quelqu'un qui a fait un, voilà, on est 4 coureurs qui avons fait un long marathon. Et, on arrive au bout des 40 kilomètres, on nous dit, il y en a encore 25 à parcourir. Sauf que c'est une surprise. Non, mais c'est normal d'avoir fermé, les librairies si on pense que le contexte sanitaire l'exige. Je regrette qu'elle le soit parce que je vois qu'en Belgique, c'est pas vraiment le cas.
C'est vrai.
Et puis, je repense toujours à cette phrase de Churchill qui disait qu'on n'allait certainement pas, pendant la guerre, arrêter les activités culturelles puisque c'était pour la culture qu'on se battait. Donc, c'est dommage d'être dans un dispositif qui est exactement le même que celui qui avait été adopté au début du premier confinement, alors qu'il n'y avait pas de masque, pas de gel, et qu'effectivement, on peut comprendre qu'il fallait fermer absolument tous les commerces. Là, on peut s'interroger sur la nécessité de fermer des librairies alors que les vendeurs d'appareils électroniques, de fruits et légumes, ce qu'on peut comprendre, sont ouverts et sans doute on manipule pas mal aussi les fruits et légumes. Donc voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Je pense qu'il y a un comité sanitaire qui est derrière et qui décide, ce qui est assez logique également. Sinon, individuellement, évidemment, c'est une attente supplémentaire, mais je pense qu'on est tous à vivre ça avec un peu de résignation et puis de patience. Et ce qu'on vit est quand même beaucoup moins grave que ce qu'ont vécu beaucoup d'autres personnes. Voilà, donc c'est pas très grave.
Et de façon générale, comment est-ce que vous vivez ce deuxième confinement, Hervé Le Tellier, précisant qu'à ma grande surprise, dans L'Anomalie, vous parlez déjà du premier, comme si vous aviez repris le texte avant publication définitive pour l'ancrer encore plus dans notre époque et le rendre réaliste.
Le texte a été remis, en fait, vers le 15 janvier. Et puis, vous savez, on a un petit peu de temps, c'est-à-dire entre les épreuves corrigées, le bon à tirer, comme on dit, on a du temps. Donc, je me suis effectivement légitimement autorisé à inclure ça dans mon texte, qui est un texte qui se projette en 2021 et dans lequel je ne pouvais pas faire l'impasse sur les questions de l'actualité, ce qui donnait un effet de réel. Et qui plus est en écho avec ce qui se passe un peu dans le livre, puisqu'il y a des personnes confinées dans un hangar, il y a une situation totalement anormale que vivent toute une série d'individus. Donc je trouvais logique de placer cela dans un livre de cette nature. J'aurais évidemment fait une chose très différente dans un livre de souvenirs ou dans quelque chose qui se serait passé à une autre période, un livre historique. Mais là, ça s'imposait. Dans ce livre en particulier, il fallait que je puisse avoir une référence au premier confinement. Et je ne m'attendais pas forcément au second d'une manière aussi rapide.
Alors on va essayer de rentrer dans ce roman L'Anomalie qui est difficile à résumer, ou alors en tout cas il faut vraiment partir du principe que c'est une fiction, puisqu'il est question donc de l'apparition surnaturelle d'un avion en plein ciel avec à son bord 245 passagers environ. Alors je dis surnaturel puisque nous sommes en juin 2021 et que le même avion avec les mêmes gens a déjà atterri en mars 2021. Ce qui signifie, un, qu'on est face à un phénomène inédit, la réplique du même événement, et deux, l'arrivée sur Terre de 245 personnes qui sont les doubles de 245 autres qui ont déjà repris leur vie et leur quotidien depuis 3 mois. Alors c'est une espèce de rencontre du troisième type, matinée de X-Files, Fringe, voire Manifeste, sans oublier la littérature de science-fiction et les romans d'Arthur C. Clarke, par exemple. Quel a été le point de départ de l'écriture de cette fiction, Hervé Le Tellier ?
Alors, il y avait plusieurs points de départ. Le premier, c'est né en fait d'un film que je regardais avec un ami et qui est un film très ancien dans lequel il y a une sorte de turbulence dans un avion. Et puis, je sais pas, on était en train de discuter tranquillement. Je me suis dit, tiens, mais si en fait les turbulences étaient liées au fait que l'avion se pose 2 fois, j'ai posé cette idée sur un coin de table quasiment. Et puis après, j'ai retravaillé en me disant, mais effectivement, ça donne la possibilité de travailler l'opportunité du double, qui était un thème qui m'intéressait depuis toujours. Et la question de la rencontre face à soi, vraiment face à soi, c'est-à-dire pas à quelqu'un qui nous ressemble, pas à un clone, mais quelqu'un qui a les mêmes souvenirs, qui a les mêmes sentiments pour les mêmes personnes, les mêmes détestations, les mêmes goûts, et surtout qui est même dans la même vie, c'est-à-dire dans le même appartement, etc. Ça m'intéressait parce que ça posait la question de ce qui est essentiel pour nous dans notre vie, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier, quelles sont les choses pour lesquelles on est prêt à se battre. Donc l'idée du double, elle est née de ça, d'une sorte de spectacle que je regardais à la télévision, où je me suis dit, tiens, c'est possible. Et puis après, le travail du romancier, c'est toujours d'imaginer ce qu'on peut faire avec une idée, parce qu'une idée, c'est jamais un texte. Et donc, il faut aller plus loin que cette simple idée pour en faire un vrai roman. Comme j'avais un deuxième projet qui était de travailler sur l'idée des genres littéraires et de travailler sur la multiplicité dans un même roman des genres, je me suis dit que j'allais faire quelque chose qui était une sorte de version moins déceptive que ce livre magnifique qui est celui d'Italo Calvino, Si par une idée vers un voyageur, dans lequel il y a un travail sur les genres, parce qu'à chaque fois Italo Calvino commence un roman pour le lecteur et l'abandonne en cours de route. Et cette idée de pouvoir proposer au lecteur des séries de débuts de romans qui, eux, ne sont pas abandonnés et qui sont à chaque fois dans un style particulier, ça m'intéressait vraiment.
Alors je rappelle, Hervé Le Tellier aussi, que vous êtes président de l'Olipo, l'ouvroir de littérature potentielle, qui est un mouvement littéraire basé sur le jeu et les contraintes, dont Georges Perec a été l'un des plus brillants et célèbres adeptes. En témoigne La Disparition, son roman écrit sans jamais utiliser la lettre E, entre autres exemples. Est-ce que vous aussi, vous êtes parti d'une contrainte ou vous vous en êtes imposé, au-delà de déjà ce que vous venez de nous raconter sur le projet d'écriture ?
Alors, le livre de Perec que vous avez cité, La Disparition, c'est un projet linguistique, c'est-à-dire qu'il travaille sur la langue en tant que telle, c'est-à-dire il essaye de se priver d'un mot, enfin d'une lettre, et de voir quels sont les mots disponibles dans un contexte totalement, de privation. Et mon projet n'était pas du tout celui-là. Mon projet était de travailler vraiment sur, non pas la lettre, mais sur les différents genres, une fois de plus. J'ai un petit cahier des charges, qui est un cahier des charges, mais qui est nécessaire quand on fait un roman qui est aussi, complexe, structuré, qui exige un petit peu de se promener entre différents personnages. Et je voulais jamais perdre mon lecteur, donc il fallait que j'aie vraiment une structure puissante pour que jamais on puisse se demander où je suis, qu'est-ce qui se passe exactement. Donc il y a une structure qui effectivement est présente. L'Oulipo travaille sur des contraintes qui sont aussi des structures parfois, qui sont aussi des formes, et c'est pour moi une des formes. Il y a d'autres petites formes qui sont cachées à l'intérieur, il y a ce qu'on peut appeler un petit cahier des charges, mais ce cahier des charges est totalement rendu indétectable pour le lecteur, parce que mon but n'est pas de proposer un mode de lecture qui passerait par la contrainte. Mon but, c'est de proposer une grosse fiction, quelque chose qui soit lisible absolument comme un roman de roman et qui ne passe pas par une exégèse complexe. Ce n'était pas du tout l'idée. C'est vraiment d'avoir un roman fictionnel très puissant, même si c'est vrai que l'Oulipo compte dans ma vie. Hein, j'en suis, c'est vrai, depuis un an président, ce qui n'a strictement aucune valeur hiérarchique au sein de ce groupe. Mais bon, et qui, c'est un groupe qui travaille vraiment sur les formes et sur la littérature, qui, vous avez raison, qui est considéré comme un jeu, comme un terrain de jeu même.
Et sachant que vous êtes mathématicien de formation, Hervé Letellier, ça ne vous a pas paru fou d'inventer cette situation romanesque qui fait appel plus à la croyance, à la magie qu'à la science?
Alors justement, pour moi, ça ne fait pas appel à la magie ni au surnaturel. Je n'aime pas les contes de fées. Je trouve que c'est intéressant le principe du conte de fées, que ça peut donner naissance à effectivement de très beaux textes. Mais pour moi, le vertige qui naît d'une fiction de cette nature vient aussi du fait que c'est possible à condition d'accepter une hypothèse que je formule dans le livre et qui est une hypothèse assez vertigineuse, qui n'est pas du tout la mienne, d'ailleurs que j'ai repris d'un philosophe anglais du XXIe siècle, qui est Nick Bostrom, qui enseigne à Oxford, dont j'ai fait la connaissance il y a une petite vingtaine d'années lorsqu'il a fait une conférence sur l'idée de ce qu'on appelle la simulation. Et donc je me suis éloigné de l'idée du conte de fées pour rentrer dans une chose qui est l'expérience de penser, se dire simplement qu'est-ce qui changerait dans notre monde si on se disait que nous n'existons pas tout à fait et que peut-être nous sommes des virtualités, individuellement des choses virtuelles qui n'existent pas tout à fait. Et j'avais envie de ça parce que je trouvais que ça apportait dans une perspective qui n'est justement pas celle de science-fiction, un rapport au quotidien, un rapport au réel qui touchait non seulement mes personnages, mais le lecteur. D'un seul coup, le lecteur peut se dire, mais et si c'était vrai? Et si effectivement, ce qui me semble exister autour de moi n'était pas forcément constitué d'atomes, n'était pas forcément constitué de molécules, mais au contraire était un simple objet électrique pris dans l'énorme algorithme d'un immense calculateur. Et ça m'intéressait. C'est une vision du monde qui est quand même vertigineuse. Je reprends ce mot, mais ça me paraît vraiment vrai. On se pose des questions, quoi.
Oui, et puis c'est absolument passionnant. Et d'ailleurs, vous avez raison d'insister sur le fait, Hervé Letellier, qu'il s'agit d'un vrai roman, d'une vraie fiction, et pas seulement d'un postulat ou d'une hypothèse de travail. Et d'ailleurs, vous respectez une construction narrative très rythmée, un peu sur le mode du thriller, avec les événements racontés par une dizaine de personnages que l'on suit avant et après le deuxième atterrissage. Alors, de mémoire, il y a le pilote de l'avion, un tueur professionnel, une mère et ses deux enfants, une avocate, un couple de Français, un chanteur nigérian et puis un écrivain. Alors nous y reviendrons évidemment. Que vous permet ce panel, Hervé Letellier? Est-ce que la diversité de tous ces personnages en âge, nationalité, classe sociale, couleur de peau, vous permet de faire une expérience en particulier, un peu comme un chercheur dans son laboratoire?
Oui, bien sûr. Ça permet deux choses. Ça permet d'abord pour un écrivain de se précipiter dans une multitude de personnages, ça va de la petite fille de 7 ans en passant par l'homosexuel nigérian ou la jeune avocate extrêmement brillante américaine ou effectivement l'écrivain un peu maudit. Donc on a tous ces personnages qu'on peut manipuler. Moi j'avais envie d'avoir une très grande diversité, vous avez raison, dans les âges, dans les couleurs de peau, si tant est que ça ait du sens, mais ça en a en fait pour à la fois mon avocate noire américaine et évidemment pour le Nigérian. Ça m'intéressait d'avoir tous les genres, tous les sexes, toutes les sexualités, parce que je voulais justement avoir une sorte de vision du monde tel qu'il est vraiment, c'est-à-dire quelque chose qui soit planétaire. Je voulais aller dans tous les pays, je voulais connaître toutes ces différentes situations, et ça m'ouvrait sur un champ de possibles au niveau narratif que j'ai jamais connu, c'est-à-dire c'est assez rare pour un auteur de pouvoir se précipiter dans tous ces endroits à la fois, de jouer avec chacun des genres, d'avoir mon tueur professionnel qui est dans un thriller, d'avoir un couple avec une grande différence d'âge qui se déchire et qui finalement est dans un roman qu'on peut considérer comme un roman intimiste, un roman sentimental presque, d'avoir des situations qui sont des romans à la Tom Wolfe comme vous savez, Le Bûcher des Vanités, qui est un magnifique roman de Tom Wolfe sur les avocats et sur le monde tel qu'il se fait aux États-Unis autour de la puissance de l'argent. Donc je voulais tout ça à la fois et c'était la multiplicité des personnages permettait ça. Et j'espère que le lecteur aime passer d'un personnage à l'autre, jongler avec des situations, avec des univers à la fois littéraires et géographiques et individuels. Donc on est à la fois précipité dans différents lieux et dans différents psychés. Et j'étais intéressé par cette idée de la multiplicité, du nombre, quoi.
Et à la fois, c'est formidablement documenté dans tous les domaines, que ce soit l'architecture, que ce soit les techniques de cinéma pour Lucie, par exemple, que ce soit pour la religion, la science et même la musique afropop. Vous y connaissez en musique nigériane, donc?
Ben maintenant, oui. Non, mais pour que ça marche, pour que mes personnages soient incarnés, qu'ils soient forts, je ne peux pas éviter la documentation, je ne peux pas éviter de précipiter le lecteur dans un monde qu'il ne connaît pas forcément. Et la musique nigériane, par exemple, que je connaissais assez mal, pour dire le moins, je me souviens d'avoir pris un taxi au moment où j'écrivais ce livre, où j'étais plongé dans la musique nigériane pour écrire le chapitre sur Slim Boy, qui est mon personnage tout à fait charismatique et intéressant de popstar nigériane. Et je connaissais bien cette musique-là. Je rentre dans un taxi et le conducteur écoute de la musique nigériane. Et je suis capable de lui dire qui c'est. Il me regarde, moi, 60 blanc, capable de lui définir ce qu'il est en train d'écouter. Alors là, je dois dire que c'était un succès.
Alors c'est une anecdote, mais en même temps, à travers ce personnage de Slim Boy, vous en dites beaucoup sur la question de l'homosexualité au Nigeria, qui est encore un délit.
En Afrique en général.
Ouais,
en Afrique en général.
Ouais. Et aussi la question de la gémellité, qui dans certaines cultures est une malédiction, et ce qui n'est pas le cas dans la culture Yoruba.
Au contraire,
avoir un jumeau ou être deux, c'est plutôt considéré comme, pas des divinités, mais vraiment c'est quelque chose de magique.
Oui, alors c'est à la fois béni, parce que, et c'est courant surtout. Et donc c'est l'intérêt de la chose dans ce contexte, c'est qu'en prenant un homme issu de l'ethnie Yoruba, j'avais la possibilité de justifier le fait qu'il soit dupliqué de manière assez simple vis-à-vis de ses compatriotes, parce que les Yoruba ont, dans un cas sur dix, une naissance sur dix donne naissance à des jumeaux. C'est énorme en proportion. Il y a des études qui sont faites sur cette situation qui est une entre guillemets une anomalie génétique, mais qui est un cas relativement fréquent chez les Yoruba. Et donc ça m'intéressait. Et à chaque fois, effectivement, je travaille avec beaucoup de documentation. Je fais valider par des spécialistes sur la musique. J'ai fait valider par un copain qui effectivement connaît extrêmement bien la musique nigériane, parce qu'il est lui un Nigérian. Pour l'architecture, j'avais des copains architectes. Pour la maladie dont est atteinte le pilote de ligne, j'ai des amis cancérologues qui sont intervenus. Donc, à chaque fois, je tiens à ce qu'il y ait du réel. Parce qu'on ne peut croire à un personnage que s'il est baigné dans un univers où tout est plausible et vrai. Un monde qui, à chaque fois, est différent pour chacun des personnages et de l'ancrer. Lorsque je donne toutes les armes du tueur à gages, ces armes, elles sont nécessaires, elles sont toutes justifiées. J'avais un spécialiste des armes qui m'a dit « ça, il ne peut pas l'utiliser, ça fait trop de bruit, ça, c'est trop lourd, il ne peut pas le mettre dans un sac, etc. »
C'est ce que faisait Jean-Patrick Manchette, d'ailleurs.
Je pense que Manchette fait comme ça, parce que moi, je suis un admirateur de Manchette, et c'est tellement bien documenté chez Manchette que, évidemment, il y a forcément un travail derrière de confrontation avec le réel.
Et voilà, et ça renforce l'effet de réel, effectivement, de la même façon que vous dupliquez un faux article du journal au cours de la pagination, qui renforce l'idée qu'il y a bien eu un article sur ce deuxième avion. Parmi les références musicales que vous faites, Hervé Letellier, j'en ai retenu une qui, je trouve, a tout son sens à la lecture de votre roman, « It's a Wonderful World » de Louis Armstrong.
I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands. than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful.
Bienvenue dans le monde merveilleux d'Hervé Le Tellier, invité aujourd'hui de Littérature sans frontières sur RFI pour nous parler de son roman fantastique à tous égards, L'Anomalie, aux éditions Gallimard, qui à partir d'un phénomène insensé, le dédoublement inattendu d'un groupe de personnes après que leur avion a été pris dans une tempête, non pas shakespearienne, quoique, mais quasi cataclysmique. Et parmi ces personnes, un écrivain, Victor Miesel, un auteur de talent, mais sans succès, et qui, après avoir cru mourir pendant ce terrible vol, écrit un roman qui s'intitule, faut-il être surpris, L'Anomalie, livre qui lui apporte la gloire. Est-ce que d'une certaine façon, ce n'est pas un peu ce qui vous arrive aussi, Hervé Le Tellier ?
Alors la gloire, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Anomalie, le livre non pas de Miesel, mais L'Anomalie publié chez Gallimard, a rencontré des lecteurs. Voilà, plus que sans doute jamais pour aucun de mes livres. Et c'est évidemment un bonheur de savoir qu'on est lu par des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est évident qu'on écrit pour être lu. Alors le personnage de Miesel, lui, c'est un personnage que j'ai composé à partir de pas mal de gens. Donc c'est pas tout à fait un miroir de moi. C'est un cocktail d'un auteur qui est disparu il y a une douzaine d'années, qui s'appelle Édouard Levé, avec un autre personnage qui était un ami et qui est Bernard Ruffner, qui était un traducteur, un très bon traducteur, qui a traduit Joyce, Mark Twain, etc. Et puis des amis qui sont des amis proches, deux femmes et un homme, qui sont des écrivains et qui sont de très bons écrivains, qui ne connaissent pas nécessairement le succès, ce qui n'est pas le critère absolu du bon et du mauvais écrivain. Et donc, j'ai tous mis dans ce personnage de Victor Miesel, qui m'intéressait justement parce qu'il était double. Il connaît un succès avec un livre qui ne lui ressemble pas vraiment, qu'il écrit dans une période qui n'est pas tout à fait à l'image de lui, une période dépressive, une période noire, à la suite de laquelle il finit par commettre l'irrémédiable, comme on dit. Et puis, il ressurgit dans une deuxième partie, puisque l'avion ressurgit, donc il n'est plus mort. Et l'idée qu'il ne soit plus mort, mais qu'il ait connu l'expérience du succès alors qu'il est mort, dans une sorte de nécrophilie dont malheureusement le monde de la littérature est parfois friand, un bon écrivain étant parfois un écrivain mort. Mmh. Je trouvais ça amusant, voilà.
Mais quand vous écrivez que le roman de Miesel s'est retrouvé dans les premières listes du Médicis, du Goncourt et du Renaudot, pour disparaître plus tard, contrairement à vous qui êtes encore en lice pour le Goncourt et le Renaudot, c'est pas un peu vertigineux cette coïncidence, Hervé Le Tellier ?
Bah, parfois, je me dis que l'anomalie, que nous sommes vraiment dans une simulation et que c'est une énorme blague que fait au monde cette simulation que de rendre un tout petit peu visible un livre qui parle d'elle-même. Voilà, c'est ça l'impression que j'ai parfois, je trouve ça drôle. Oui, bien sûr, il y a un effet de miroir qui est amusant. Je pense que d'ailleurs, ça n'a pas échappé aux jurés lorsqu'ils ont lu le livre, ce petit tour de passe-passe où je me moque un peu en plus du système français des prix littéraires, qui néanmoins a le gros avantage, hein, qui est de permettre au livre d'exister comme phénomène vraiment national. J'ai vu que pendant le confinement, un Français sur 10 avait voulu écrire un livre ou l'avait commencé à le faire, et je trouve ça formidable.
Et de façon générale, est-ce que vous croyez à la littérature qui peut être visionnaire ?
Oh oui, je pense que... Alors, qu'appelez-vous visionnaire ? Je ne sais pas. Je pense que si la littérature a une fonction, je ne suis pas sûr de ça, mais si la littérature a une fonction, c'est de proposer des univers au lecteur et que le lecteur sorte d'un livre quelque peu transformé. Que ce déplacement dans un univers qui n'est pas celui de la réalité lui est proposé un déplacement à lui-même, à sa personnalité, que le livre nous apporte. Il y a Freud, ce charmant Sigmund Freud, qui disait qu'on apprend parfois plus des bons livres que de la vie. Et moi, j'ai beaucoup appris des livres, plus encore que de la vie. Parce qu'on peut pas tout vivre, et les livres proposent de vivre beaucoup. Et c'est l'intérêt principal des livres, donc effectivement, oui, le visionnaire, pour moi, c'est ça, c'est proposer des univers.
Et justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que parfois, ce sont les romans qu'on sollicite quand on n'a pas de réponse. Et par exemple, ici, après le deuxième atterrissage de l'avion, les scientifiques vont chercher des idées, des réponses dans la littérature de science-fiction, voire d'anticipation. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous ?
Ça veut dire que la littérature, de manière générale, de science-fiction, à proposer des réponses de tout temps à des situations inédites. Et encore aujourd'hui, on voit bien qu'on s'en sert. Il n'y a pas une seule personne qui travaille aujourd'hui sur la robotique qui ne connaisse pas les lois des robots, par exemple, qu'a inventé Isaac Asimov. Isaac Asimov, il y a très longtemps, a inventé ces lois qui permettent de comprendre ce qu'il faudrait imposer à l'intelligence artificielle pour éviter qu'elle détruise l'humanité. Le mot robot que nous utilisons vient de Karel Sapek, qui est un écrivain tchèque des années 20 et qui a inventé ce mot. On vit dans un univers dans lequel tout a été pensé il y a longtemps par des écrivains. C'est Edgar Allan Poe qui a pensé à l'expansion de l'univers, au fait que si le ciel était noir la nuit, c'était parce que l'univers était en expansion. C'est H.G. Wells qui a inventé la guerre des mondes et imaginé ce qui pouvait se passer dans une rencontre entre deux civilisations. C'est H.G. Wells aussi qui invente la mutation génétique et la manipulation génétique dans l'île du Dr Moreau. Donc on peut, comme ça, indéfiniment trouver dans le monde que nous vivons aujourd'hui des antécédents qui se trouvent dans la littérature. Pas forcément de science-fiction, mais dans la littérature.
Oui, la littérature peut montrer le chemin, ou en tout cas ouvrir la voie. Avant de nous quitter, que feriez-vous si vous vous retrouviez devant un Hervé Le Tellier bis ? Hervé Le Tellier ? Qu'est-ce que vous lui diriez ?
Il va falloir qu'on cause. Voilà, je crois qu'on aurait des choses à se dire et puis des choses à négocier peut-être.
Mais quoi par exemple ?
Je ne sais pas, quand vous retrouvez, imaginez que vous vous retrouvez face à vous-même, un des vrais problèmes qui se pose, et c'est un des problèmes que je pose dans ce livre, c'est qu'on aime souvent la même personne. Donc quand on aime une personne et qu'on l'aime au point d'imaginer mal comment la partager, on ne voit pas très bien comment la partager avec soi-même. Donc je pense que toutes les questions qui sont de la nature, du matériel, on s'en moque. Ce qui est important, c'est tout ce qui est de l'ordre du non-partageable, qui nous est ce qu'on peut appeler l'intime, quoi. Ce qui est l'essentiel, ce qui nous constitue. Et moi je crois que ce qui nous constitue, ce sont les sentiments qu'on porte vers les autres.
Et est-ce que vous allez continuer de prendre l'avion quand ce sera possible, évidemment ?
En fait, j'espère, pour tout vous dire, prendre cet avion-là.
le 10 mars 2021, vous serez dans un avion, Hervé Le Tellier ?
J'aimerais bien être dans cet avion-là, précisément. Ouais, j'aimerais bien aller à New York dans cet avion. Je pense que je le ferai, d'ailleurs, si par hasard les vols sont autorisés. Ça me ferait rire, quand même. Je pense que c'est une chose que je ferais. Ouais.
Vous avez raison, il faut rire. Vivement cette belle perspective, vous nous raconterez. En tout cas, merci beaucoup pour ce roman qui, sous le jeu, en dit beaucoup sur des questions beaucoup plus sérieuses, des questions fondamentales, le libre arbitre, la deuxième chance, la mort, la renaissance, la rédemption. Beaucoup de thèmes qui nous touchent et que vous nous faites partager à travers des personnages absolument inoubliables. Merci encore Hervé Le Tellier. L'Anomalie, donc, qui a paru aux éditions Gallimard, en lice pour le Goncourt et le Renaudot, le Goncourt des lycéens et le Renaudot des jeunes aussi, et qui est à commander évidemment sur toutes les plateformes en ligne des librairies indépendantes.
Merci à vous.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Vous avez moins